Bien, bah écoutez, bonsoir à tous. Je vois que nous sommes nombreux ce soir. C'est donc la rentrée du séminaire école. Ce séminaire donc qui sera tout au long de l'année donc qui accueillera tout au long de l'année deux orateurs, comme on le fait ce soir, et qui sera régulièrement présidé par l'un des deux orateurs de la séance précédente. Et donc ce coup-ci, nous n'avions pas d'orateur de la séance précédente. Et donc, c'est moi qui me trouve là avec vous ce soir pour présenter le travail de nos deux collègues. J'ai cédé à l'amicale pression. Aujourd'hui, donc on démarre sur cette question que vous avez vue. Qu'est-ce qu'un analysant ? Alors, une formulation extrêmement simple. Une formulation qui pourrait prétendre justement à l'idéal de simplicité qu'évoque Lacan à l'occasion de la position de l'enseignant, mais que la question soit simple dans sa formulation, évidemment, ne dit pas qu'elle le soit dans son contenu. Et en fait, c'est une question qui tire à sa traîne beaucoup d'autres, et qui seront donc déployés soirée après soirée tout au long de cette année de travail. On a bien l'idée, par exemple, que se donner une définition de l'analysant, c'est s'avancer sur celle de ce que on se représente de la psychanalyse, à la fois comme théorie et comme pratique, et que donc cette question emporte avec elle donc des enjeux politiques pour une école. On peut aussi questionner à propos de qu'est-ce qu'un analysant. On peut questionner l'affaire de l'entrée en analyse. On peut questionner la fin, on le verra aussi. Inutile de déployer l'ensemble des thèmes, ça va nous prendre toute l'année. Et le plus simple est peut-être de commencer dès à présent. Donc on va peut-être commencer par écouter Sol. Je crois d'ailleurs que ce qui est prévu dans le programme. Donc Sol Aparicio est psychanalyste à Paris. AME de notre école, membre fondateur d'ailleurs, et elle va intervenir sous le titre « On ne naît pas psychanalysant ». Puis nous écouterons Frédéric Pellion, donc analyste à Paris aussi, et qui intervient dans deux institutions, et trésorier par ailleurs de notre école, une fonction d'importance, et qui interviendra sur, alors c'est quoi ton titre ? Enfant versus analysant, c'est ça ? Voilà, alors je donne tout de suite la parole donc à Sol, pour, on ne sait pas combien de temps tu... D'accord. C'est parfait.
C'est bon, on entend là.
Tu Donc ça, c'est pas le bon.
Maintenant, ça va.
Ouais, ça vient.
Non, hein. Oui. Bon, on y va quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'un analysant ? Ce pourrait être, c'est ce que je me suis dit en commençant, une question innocente. J'ai imaginé quelqu'un comme ça venant dans nos Zooms me demandant qu'est-ce qu'un analysant ? Reçue au sein d'une école de psychanalyse, elle raisonne bien sûr autrement. Elle présuppose la spécificité de la psychanalyse et signifie d'emblée que ça ne va pas de soi, ni d'être un analysant, ni de dire précisément ce que c'est. Sous des dehors simples, Agnès vient de le dire, la question s'avère difficile, en tout cas elle s'est avérée difficile pour moi, au moment de vouloir répondre, pour peu que nous voulions penser notre pratique quotidienne en regard de notre doctrine. Quelle définition donner qui soit valable pour tous les cas ? Et pourtant, il me semble qu'on peut dire que longtemps la question ne s'est pas posée, comme si cela avait semblé acquis. Il me semble donc qu'on peut dire qu'il a fallu attendre l'enseignement de Lacan pour qu'elle soit élaborée et que l'on aperçoive l'incidence du discours analytique avec l'éthique qui lui est propre sur notre façon d'aborder la clinique et de penser les indications de la psychanalyse. Dans les textes qu'il a consacrés à la technique analytique, aussi bien les premiers que l'abrégé de 1938, comment ne pas le remarquer, on voit Freud employer de façon indistincte les mots « malade », « patient » et « analysé » que l'on peut pourtant aisément distinguer. Le malade est celui qui est affecté de symptômes, le patient celui qui s'adresse à un médecin et se soumet à un traitement pour en être soulagé, et l'analysé, celui qui se soumet à un traitement psychanalytique auprès d'un médecin analyste, selon l'expression que Freud emploie souvent. Très vite, Freud constate que parmi ceux qui s'adressent à lui, tous ne se soumettent pas facilement à l'analyse qu'il leur propose. N'est pas hystérique qui veut, pourrait-on dire. Il introduit alors un traitement d'essai. De quoi s'agit-il ? Tout en constituant déjà le début d'une analyse, je cite Freud, et se conformant aux règles qui la régissent, ce court traitement préliminaire est destiné d'abord à établir si le cas se prête ou non à la technique de l'analyse. Est-il susceptible ou pas d'hystérisation, dirions-nous ? Et ensuite, à faciliter le diagnostic. On voit ici que la question des indications ne se confond pas avec celle du diagnostic. Elle la dépasse, ou, peut-être pour mieux dire, les deux s'entrecroisent. Alors, Freud ne l'a certes pas fait explicitement, mais on peut donner sans difficulté une définition de ce qu'est pour lui un analysant. Je reprends ma phrase. Freud ne l'a certes pas fait explicitement, mais on peut donner sans difficulté une définition de ce qu'est pour lui un analysant dès lors que le dispositif analytique a été établi. Il est celui qui se soumet, qui obéit, dit Freud, à la règle fondamentale de l'analyse, soit celui qui associe librement. Freud rapportera plus tard comment il a dû adapter la technique inventée à partir de son expérience première avec des patients hystériques pour pouvoir traiter les cas de patients phobiques ou obsessionnels avec lesquels une attente passive s'avère contre-indiquée. Il subordonne donc ainsi la technique aux fins de l'analyse, sans remettre en question pour autant la règle fondamentale. Nous le constatons après lui, la tâche analysante s'avère moins aisée pour le sujet obsessionnel qu'elle ne l'est pour l'hystérique. Et cela suffit pour mettre en évidence que ça ne se fait pas sans l'analyste, celui à qui la demande initiale est adressée. Cette demande, adressée à l'analyste comme à quelqu'un qui sait, constitue le transfert, soit le point de départ qui est au commencement de toute analyse et que l'association libre présuppose. Chez Lacan, qu'en est-il ? Plusieurs définitions de ce qu'est un analysant me sont venues à l'esprit, comme ça, sans plus chercher. Plusieurs définitions qui correspondent à des élaborations concernant l'analyse datant d'après son retour à Freud. Je me suis dit que ce n'est sans doute pas pour rien, puisque, avec Lacan, le champ d'application de la psychanalyse s'est, je crois qu'on peut dire ça, élargi. Donc, je vous donne les définitions auxquelles j'ai pensé. Un analysant est celui qui, dans le couple qu'il forme avec son analyste, se trouve en place de sujet. Ou celui qui, dans le discours psychanalytique, occupe la place de l'autre, désignée aussi comme celle du travail, en tant que sujet. Ou encore celui qui transfère sur l'analyste le sujet supposé au savoir. On pourrait dire aussi qu'il est celui qui se donne un partenaire qui a chance de répondre. À chaque fois, c'est d'un sujet qu'il s'agit dans les termes dont Lacan se sert. La définition de ce qu'est un analysant passe toujours par ou renvoie à celle de ce qu'est un sujet, représenté par un signifiant auprès d'un autre, définition du sujet que Lacan a introduit dès l'écrit Position de l'inconscient en la fondant sous les coordonnées de l'expérience d'une analyse. Or, pour mettre en avant ce point de départ que constitue le fait de s'adresser à un analyste, on peut proposer une définition concise que j'appellerais inclusive ou non restrictive. Un analysant est un sujet qui s'adresse à un psychanalyste, cette adresse supposant une demande, tout simplement. C'est une définition démocratique, si vous voulez. Elle fait écho à celle avancée par Lacan à propos de la psychanalyse. L'analyse, c'est ce qu'on attend d'un psychanalyste. Assertion faussement tautologique. Lacan reprenait là, dans l'envers de la psychanalyse, la formulation qu'il avait introduite bien avant dans Variante de la cure type, puis reprise dans son séminaire sur l'acte analytique. C'était dire que la chose dépend du psychanalyste, à qui il revient de causer le désir d'analyse, et qu'en principe, si psychanalyste il y a, tout sujet qui s'adresse à lui avec une attente, une demande, est un analysant, disons potentiel. À cette définition non restrictive s'opposerait une définition restrictive que l'on pourrait annoncer ainsi. Un analysant est un sujet qui, s'adressant à un psychanalyste avec une demande, s'avère divisé par les manifestations du savoir inconscient. On aperçoit tout de suite ici qu'ici, l'adresse à l'analyste, condition nécessaire, n'est pas suffisante, puisque la définition prend en considération les effets qui dérivent de la réponse de l'analyste à la demande. Ces effets sont dans ce cas de l'ordre des manifestations symptomatiques de l'inconscient, mais pourraient ne pas l'être. Manifestations symptomatiques de l'inconscient, vous reconnaissez l'expression de télévision, veut dire non seulement que l'inconscient se manifeste, mais que cela a pour le sujet une valeur d'énigme, d'appel à savoir et de mise au travail, où un rapport au sujet supposé savoir est décelé. J'ouvre une petite parenthèse pour dire, pour ceux qui n'y étaient pas, que à la récente journée d'école qui a eu lieu à Toulouse le 26 septembre, une collègue déplia avec précision un très bel exemple de l'effet d'ouverture de l'inconscient produit par une intervention de l'analyste au cours des entretiens préliminaires. Cela enclencha, disait-elle, l'entrée dans l'analyse, le sujet de l'inconscient se trouvant dès lors engagé dans la voie analysante. L'une et l'autre définition font place différemment à la question des indications de l'analyse et font apercevoir la raison d'être des entretiens préliminaires. La question du diagnostic en fait partie. Sur ce point, tout en envisageant que cela puisse changer dans l'avenir, Freud avait pris la position plutôt tranchée que l'on sait. Pas d'analyse possible dans les cas des névroses narcissiques, qu'il appelait d'abord les psychonévroses narcissiques, du fait de leur incapacité au transfert. L'analyse serait réservée aux dites névroses de transfert. Lacan, lui, n'a jamais, à ma connaissance, soutenu l'idée que l'analyse fût réservée au sujet névrosé. Il a par contre soutenu, plus d'une fois, que sa définition du sujet s'appliquait à la structure de la psychose. Il l'a fait lors de l'ouverture de la section clinique à Vincennes, en 1977 par exemple, en affirmant que les termes dont il se sert dans ses mathèmes, le S barré, le S1, le S2, le petit a, concernent aussi bien la névrose que la psychose. Ce fut l'occasion pour lui de dire ce que nous répétons souvent, la psychose, c'est ce devant quoi un analyste ne doit reculer en aucun cas. Mais ce n'était pas nouveau. Bien avant déjà, dans le séminaire sur l'identification, il avait déclaré, je le cite, que si, pour nous, le sujet n'inclut pas dans sa définition la possibilité de la structure psychotique, nous ne serons jamais que des aliénistes. Aliéniste. Ce mot qui fait couple avec aliéné, déjà désuet depuis longtemps à l'époque, disait bien, me semble-t-il, son appartenance à un champ clinique d'avant l'avènement de la psychanalyse et du sujet de l'inconscient. Lorsque, dans « Position de l'inconscient », Lacan définit le sujet en indiquant que, je le cite encore, « sa cause, c'est le signifiant sans lequel il n'y aurait aucun sujet dans le réel, mais ce sujet, c'est ce que le signifiant représente, et il ne serait rien représenté que pour un autre signifiant, à quoi dès lors se réduit le sujet qui écoute ? Lorsque nous lisons ça, n'est-il pas évident que cette définition, tout en étant issue de son expérience de l'analyse, est valable pour tout sujet parlant ? La possibilité de répondre à la question de savoir ce qu'est à proprement parler un psychanalysant n'est venue que tardivement. Pas avant que Lacan n'ait pointé que celui que l'on avait désigné jusqu'alors comme l'analysé, en traduisant le terme allemand utilisé par Freud, ne l'était que par anticipation et qu'il remplace donc cette dénomination par celle de psychanalysant. Il est vrai que Lacan a pu dire par la suite qu'en parlant de l'analysant, il avait parodié le terme anglais « analysand ». Mais celui-ci a un sens légèrement différent. Et Lacan prit soin alors que ça va aller, là. Claire rigole. Donc, le analysant anglais a un sens légèrement différent que l'analysant que Lacan propose. Donc, à Genève, en 75, il précise, vous m'entendez ? Sinon, vous dites, hein ? Donc, Lacan, je disais, prit soin alors de préciser ce qu'il voulait dire. C'est que dans l'analyse, c'est la personne qui vient vraiment former une demande d'analyse qui travaille. L'accent est mis d'abord sur la demande, qui doit vraiment prendre forme. Ensuite, sur ce travail. L'analysant est celui qui fait le travail, alors que the analysand anglais était celui qui, selon les dictionnaires, undergoes, littéralement, celui qui subit ou passe par une psychanalyse. On voit bien que l'enjeu de ce changement de dénomination est la façon dont on pense la psychanalyse. Notre analysant, il me paraît important de le noter, apparaît à une date bien précise et significative, le 9 octobre 1967, dans la proposition sur le psychanalyste de l'école. Comme si Lacan, à ce moment-là, en voulant rendre compte des conditions du devenir psychanalyste, avait été conduit à préciser, expliciter et ainsi définir ce qu'est ce psychanalysant qui le précède nécessairement. Il peut alors dire que le psychanalysant fait le psychanalyste. Tout cela n'advient que dans un après-coup de l'acte de fondation qui a suivi son excommunication. Il me semble donc que c'est le dire de Lacan qui, en 1967, dénomme le psychanalysant. Et en ce sens, on pourrait presque dire, ce qui bien sûr est une absurdité, qu'il n'y en avait pas avant. Il n'y avait pas de psychanalysant avant 1967. On peut en tout cas considérer que c'est à partir de ce dire, de cette date, que le psychanalyste cesse définitivement, je dirais, d'être médecin. À partir de là, que la clinique analytique achève sa séparation avec la clinique psychiatrique. Et à partir de là aussi, si je ne me trompe, qu'il n'est plus tellement question de cure dans l'enseignement de Lacan, mais surtout d'une expérience dont il va bientôt formaliser le discours. Son élaboration autour du terme psychanalysant est donc contemporaine de la conceptualisation de l'acte analytique, dans le séminaire donc qui s'appelle comme ça. De cette élaboration, je retiens le premier point mentionné plus haut. Il s'agit d'un sujet. Un analysant n'est ni un malade, ni un patient. Il est en place de sujet. Tel que Lacan le formule alors, le psychanalysant en situation dans le discours est essentiellement celui qui parle et sur qui s'éprouvent les effets de la parole. Ce qui se prouve suppose l'épreuve de sa propre démission, dit Lacan, à laquelle tous ne se soumettent pas. C'est aussi ce que l'analyste pourra mesurer au cours des entretiens préliminaires. Celui qui est là et qui formule sa demande, est-il susceptible de devenir un analysant, soit de faire de cette demande l'objet d'une élaboration qu'il implique comme sujet? On peut considérer que la seule condition dont Lacan fait dépendre la possibilité de devenir analysant et le désir. C'est en fait plutôt la seule indication. Il ne s'agit pas là du désir de l'analyste, même si la chose ne se passera pas sans lui, bien sûr. Je pense à la réponse que Lacan a donnée dans Télévision à la question de savoir ce que la psychanalyse permet d'espérer. Vous connaissez le passage. La psychanalyse vous permettrait d'espérer, assurément, dit-il à son interlocuteur, de tirer au clair l'inconscient dont vous êtes sujet. Mais chacun sait que je n'y encourage personne, personne dont le désir ne soit pas décidé. Qu'un désir soit décidé ou non renvoie à la position d'un sujet particulier et ne dit rien de ce que nous appelons la structure clinique. Un peu plus loin cependant, évoquant explicitement les éventuels critères pour l'analyse, Lacan pose que le discours analytique exclut le « vous » qui n'est pas déjà dans le transfert. Retour au transfert donc, qui est au commencement de la psychanalyse. Mais que veut dire « être déjà dans le transfert » ? Faut-il entendre que Lacan rejoignait là la position de Freud ? car n'y a-t-il pas que le sujet névrosé dont on puisse dire qu'il est déjà dans le transfert? Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre simplement par un oui ou par un non, mais je vais essayer d'argumenter ma réponse. Lacan avait précédemment, peu de temps auparavant, rendu raison de la limite marquée par Freud lorsqu'il avait relevé, en 69 dans le séminaire d'un autre à l'autre, lorsqu'il avait relevé que le sujet névrosé est naturellement psychanalysant. Cet adverbe m'a toujours beaucoup frappé. Le névrosé est naturellement susceptible de transfert puisque la structure de la névrose le rend sujet à la supposition de savoir. Si bien que le transfert est là, dit Lacan, avant toute analyse. Ce qui, bien sûr, prédispose, fort favorablement le sujet névrosé pour la tâche analysante, même s'il en faut plus pour que celle-ci s'engage. Lacan parlait d'une coalescence, soit d'une forme de soudure entre le sujet supposé savoir et la structure de la névrose, ce qui indique le point sur lequel aura à se jouer la séparation de la fin. Cela peut-il dire pour autant qu'il n'y a pas de tâche analysante possible sans ce préalable naturel? On sait que Lacan a fait tourner sa définition du transfert autour du pivot qu'est le sujet supposé savoir. Il s'agit là d'une fonction à l'œuvre dans l'analyse, certes, mais est-il obligé que l'analyste en occupe la place? Il est arrivé à Lacan de relever que, en lui laissant la parole, c'est en fait l'analysant que l'analyste institue comme sujet supposé savoir. N'est-ce pas particulièrement le cas avec ceux qui ne sont pas naturellement analysants? Le leurre du sujet supposé savoir est là levé, si l'on peut dire, dès l'entrée. Cependant, cela n'empêche pas l'analyste d'occuper la place d'objet, soit d'être cet instrument avec lequel la tâche analysante se réalise. L'expérience montre que, pourvu que la psychanalyse veuille dire pour lui quelque chose, qu'il y ait un certain désir de psychanalyse, une certaine forme de transfert à la psychanalyse, pourvu qu'il y ait ça, il est possible qu'un sujet devienne analysant sans l'être naturellement au départ. Je dirais qu'il suffit pour cela que les contingences de son existence le conduisent à une impasse qui le met en position d'avoir une demande de savoir comment s'en sortir et pourquoi il s'y trouve mené dans cette impasse, et qu'il ait l'idée qu'un psychanalyste est bien placé, sinon le mieux placé, pour l'aider à trouver une réponse. Une modalité de transfert s'installe alors, qui ne l'était pas naturellement avant, qui est fonction des circonstances, contingentes donc, et qui ne rend pas le sujet spontanément sensible, c'est certain, à tous les trébuchements de sa parole, mais qui lui permet de prendre appui sur les interventions de son partenaire pour déployer ce qu'il a à dire. S'il n'y a pas, à proprement parler, d'association libre, il y a bien des associations et une élaboration dédiée qui, une fois encore, tient compte de et s'appuie sur le dire de l'analyste. Et l'on constate que ce mode de travail à deux, une fois initié, celui-ci peut se poursuivre assez loin, jusqu'à une interrogation portée par le sujet sur la structure qui le détermine. On constate que le sujet cherche à bien dire, qu'il obéit à un devoir de bien dire, très précisément dans le sens que Lacan a donné à l'expression, celui de s'y retrouver dans l'inconscient, dans la structure. On en déduira, ou en tout cas j'en déduis, qu'un sujet peut se montrer peu intéressé par les formations de l'inconscient. Encore faudrait-il ici faire état des différences entre les rêves, le lapsus et l'acte manqué, mais que cela n'implique pas qu'il ne soit pas concerné par l'inconscient. Cela ne veut pas dire qu'il en soit désabonné. Il peut s'avérer désireux de savoir quelque chose de l'inconscient dont il est sujet et témoigner de l'effet, aussi bien thérapeutique que didactique, obtenu de son exercice de la parole dans le dispositif analytique. Ce qu'il sait de lui-même et qu'il ignorait auparavant, se traduisant en acte dans son existence. Parmi les remarques si nombreuses que Lacan a pu faire concernant l'analyse, un bon nombre me semble pouvoir être lu sans référence aucune à la structure de la névrose. C'est le cas, je crois, pour la plupart de celles que j'ai citées. Celle-ci, par exemple. Une analyse, c'est ce qu'on attend d'un psychanalyste. Ce qui est attendu, Lacan l'a formulé en ces termes. Faire fonctionner son savoir en termes de vérité. Voici comment je l'entendrai aujourd'hui. Le faire fonctionner ce savoir, celui que l'analysant lui livre ou celui que son expérience lui a fourni par ailleurs, le faire fonctionner donc pour servir la vérité du sujet. Un dernier mot pour conclure mon propos. Nous ne sommes plus au temps où Lacan pouvait parler de la grande névrose contemporaine. Elle était contemporaine des débuts de la psychanalyse. Aujourd'hui, l'hystérique et l'obsessionnel sont toujours là. Mais à leur côté, nous avons aussi des névrosés atypiques et des sujets dont la psychose est suffisamment compensée, suppléée ou stabilisée pour qu'ils puissent non seulement rencontrer un psychanalyste, mais aussi parfois devenir analysant. Pour argumenter cela, j'ai donc essayé de disjoindre la réponse à la question « qu'est-ce qu'un analysant ?» la disjoindre de ce qui la lie à ce qui a marqué la naissance de la psychanalyse, soit sa référence première et fondamentale à la névrose. Ce qui ne m'a pas paru aisé. Mais puisqu'il s'agit ce soir d'une première contribution à notre séminaire d'école, je compte sur le débat et les séances qui vont suivre. Je vous remercie.
Très bien. Frédéric, tu prends le relais ?
Ben oui.
Alors, pour faire suite au propos de Sol, du restrictif et du non restrictif en particulier, vous savez bien que Lacan donne plusieurs définitions de la psychanalyse. Il y a des définitions fortes, donc on va dire qu'elles sont restrictives, qui relient la psychanalyse avec un article défini aux horizons de l'analyse finie, de l'analyse didactique. Et puis il y a des définitions plus faibles, ou plus larges, ou moins restrictives, telles que celle-ci, déjà citée tout de suite. Une psychanalyse est la cure que l'on attend d'un psychanalyste. Ou encore, celle encore plus lâche, qu'il suggère lors du dernier congrès de l'école freudienne de Paris. Quand il dit... Comment se fait-il que par l'apparition du signifiant, il y ait des gens qui guérissent ? Freud a bien souligné, je continue la citation, hein. Freud a bien souligné qu'il ne fallait pas que l'analyste soit possédé du désir de guérir, mais c'est un fait qu'il y a des gens qui guérissent, et qui guérissent de leur névrose, voire de leur perversion. Alors, il y a un écart entre ces deux groupes de définitions, les définitions restrictives et les définitions non restrictives. Et il semble bien que Lacan refuse de choisir entre ces deux groupes de définitions. Alors, ma question, ce sera la suivante. Est-ce que ça sera à l'analysant de départager entre la psychanalyse et une psychanalyse. On va donc continuer de chercher une définition de l'analyse, puisque c'est notre objet de cette année. Comme chaque fois, ou presque, qu'il invente un terme, vous l'avez remarqué, Lacan ne le définit pas. On peut même se garder de le définir. Sans doute pour le laisser résonner un peu plus, sans le rattacher trop tôt à aucun singulier. Dans les premiers séminaires, dans les premiers écrits, le terme « analysant » est employé platement comme « participe présent ». Mais alors, « analysant » dénote quoi ? Dénote l'action de l'analyste. Par exemple, une autre phrase des variantes de la Curtipe. Deux points, je cite. Un théoricien opinant en la délicate question de la terminaison de l'analyse pose crûment qu'elle implique l'identification du sujet avec le moi de l'analyste en tant qu'analysant. Ce qui veut dire, me semble-t-il, que selon la lecture de Lacan, le futur analyste ne sera pas nécessairement comme son didacticien, mais par contre, il fera son travail d'analyste comme lui. Il analysera comme lui. Il sera le même analysant. Enfin, comme ça, vous l'a dit, dévoilé, le psychanalysant substantif, lui, plus participe, substantif, il apparaît dans la proposition du 9 octobre 1967. Enfin, d'ailleurs, c'est plus qu'une apparition. Il y a 26 occurrences dans la première version. Presque autant dans chacune de ses corollaires, en particulier le discours à l'EFP. Dans ce contexte, il me semble que l'arrivée en force de la nouvelle espèce, l'espèce psychanalysant, force à penser ce que serait la reprise en main de son destin par le patient. Parce qu'on sait que cette reprise en main est, pour Lacan, et depuis fort longtemps, indissociable de l'issue de la cure. Et on sait aussi que la passe en est clairement une opportunité, même si c'est sans doute pas la seule. Mais ne nous y trompons pas. Le psychanalysant ne dédouane pas l'analyste de son acte. Au contraire, c'est le même Lacan qui affirmera la même année que les suites par lesquelles l'acte se démontre avoir été tel, avoir été un acte, sont ses effets de cet acte. Ça s'est développé effectivement, comme ça l'indiquait déjà tout à l'heure, dans le séminaire sur l'acte analytique. Et puis l'analysant, tout court, alors là c'est plus le psychanalysant, c'est l'analysant, tout court, il entre en scène en septembre 1968. Ça se passe dans la conclusion de Lacan au congrès de l'école freudienne de Paris, de Strasbourg, laquelle, il vaut la peine de le rappeler, était déjà consacrée au thème psychanalyse et psychothérapie. Vous voyez, qu'est-ce qu'on invente ? Alors je cite, « C'est parce qu'il manque toujours quelque chose à votre clavier que l'analysant, tout court, hein, que l'analysant, vous ne le trompez pas, parce que c'est justement dans ce qui vous manque qu'il va pouvoir faire basculer ce qui, à lui, lui masque le sien de manque. C'est vous qui lui servirez de dépotoir. » C'est très clair. L'analyste fait exister un manque sur lequel l'analysant se réglera pour accommoder, s'il le désire, sur le sien propre de manque. Et à partir de là, 1968, le terme analysant se généralise dans le discours de Lacan, et comme il se plaît d'ailleurs de le rappeler à l'occasion, au-delà Et au-delà de l'école freudienne de Paris, il ironise assez souvent là-dessus. Avec la substitution donc du psychanalysant, puis de l'analysant tout court, au psychanalysé de Freud, ce qui est récusé est d'abord l'opinion que la psychanalyse pure, la didactique, serait une formation dont on pourrait régler par avance le cours. Une formation au sens scolaire, bien sûr. Mais avec la substitution supplémentaire de l'analysant au psychanalysant, autre chose encore tombe, vous avez peut-être remarqué, c'est psyché, c'est-à-dire c'est l'idée d'une âme substantielle permanente synthétiquement réglée sur le monde et qui serait supposément plus aboutie chez le psychanalyste. Vous savez que de cette âme, Lacan affirmera le caractère mythique dans Télévision. Alors la structure esquissée à Strasbourg en 68 était déjà bien entendu présente avant. Bien entendu, mais on s'en aperçoit plus aisément après coup. Ainsi, dans le séminaire sur le transfert, en particulier dans la leçon du 8 mars 61, Lacan déplie le raisonnement suivant. Premier point, l'analyste se manifeste comme possédé d'un désir plus fort que celui que lui suggère, le cas échéant, ses contre-attitudes. Deuxièmement, le dispositif de la cure fait donc apparaître, en le situant du côté de l'autre, un désir dont l'objet n'est pas inclus dans la formulation. Troisièmement, dans son effort pour isoler cet objet opaque, effort auquel le contraint son exigence d'amour, le sujet en analyse, je ne peux pas dire l'analysant, éprouve les premiers lignements d'une position que Lacan qualifie d'érastesse. Et c'est comme ça, quatrièmement, que c'est via l'autre du transfert que ce qui sera réintégré ultérieurement comme cause du désir du sujet commence à se distiller. Deuxième étape. Par exemple, le 2 février 1966, dans le séminaire sur l'objet de la psychanalyse, qui précède immédiatement la parution des écrits, le même schéma est renversé en raisonnement par l'absurde. Lacan nous explique que si le sujet supposé savoir pouvait être supposé savoir jusqu'à la vérité de l'analyse, il ne manquerait pas d'apparaître à celui-ci comme pouvant en jouir, au sens de la pulsion épistémophilique, précise Lacan. Or, conclut-il, je cite, « rares sont les analysants masochistes à ce point ». Qu'est-ce qui en résulte? Qu'est-ce qui découle de ça? Que l'analysant n'est pas seulement celui qui suppose le savoir à l'analyste, certainement pas, mais aussi celui qui veut se déprendre de ce que cette supposition charrie de surestimation. Défense et résistance, d'une part, désir et pulsion, de l'autre, étant l'envers de la même médaille. Alors, à l'enfant là-dedans. Il arrive, vous le savez, qu'un enfant rencontre plus ou moins régulièrement un psychanalyste. Ça n'arrive pas d'ailleurs si souvent. En libéral, cela a un coût qui dicte son propre rythme au temps de la cure, bien souvent. Et dans le service public, il faut encore que le un psychanalyste soit identifié en tant que tel par l'enfant et ses parents. Ce qui n'est généralement pas le cas, sauf de manière à moitié clandestine, puisque les institutions, comme vous le savez, ne rémunèrent plus tellement de psychanalystes. Mais il arrive toutefois qu'un enfant attende de ses rencontres quelque chose qu'il n'attend manifestement avec personne d'autre, ou de personne d'autre plutôt. fonction de celui à qui, avec qui on parle, est d'ailleurs très facilement distinguée par l'enfant en général de celle des autres aidants qui gravitent autour de lui. Celui avec qui on joue, celui avec qui on dessine, celui avec qui on écrit, celui avec qui on donne à son corps, celui avec qui on fait des maths, etc., etc., etc. Pour le dire rapidement, le dépouillement du dispositif analytique, avec ses corollaires d'abstinence, puisqu'on ne fait que parler, sont souvent assez appréciés par les enfants. Mais finalement, ce n'est pas si étonnant, au fond, parce que beaucoup d'enfants aiment bien parler, pour ne rien dire. Ou parler pour parler, quoi. C'est même à ça qu'on les reconnaît, en fait, les enfants. C'est ce dont la parole n'a pas valeur de preuve, n'a pas valeur de témoignage. Cette spécification-là de l'enfant, c'est d'abord juridique, bien sûr, mais est-ce que nous en avons une autre ? La dispersion des majorités, les débats résurgents sur la prise en compte de la parole de l'enfant en matière d'investigation judiciaire, et puis le découpage à succès en marge de l'enfance d'une catégorie indéfinie qu'on appelle adolescence. Tout ça peut bien tendre à remettre en cause cette sorte du primat du légal de l'enfance sur le sexuel. Il reste que l'enfance, en tant que régime de discours, n'a en soi que peu à faire avec la rencontre, effective ou pas, agie ou non de la différence sexuelle. On pourrait même aller plus loin. Après tout, est-il besoin de faire l'activité sexuelle homologuée comme telle dans l'autre pour faire l'expérience du non-rapport sexuel? Enfin, si vous voulez, je reviendrai sur ce point en terminant. Alors, pour en rester pour l'instant à la parole de l'enfant en tant que pouvant ou ne pouvant pas être analysant, parler pour ne rien dire, n'est-ce pas très exactement la même chose que parler pour dire? Pour dire, par exemple, ce que le nécessaire laisse de possible. C'est en effet ainsi que le sujet se prépare à réécrire l'histoire de la manière la plus affine avec ce qu'il est prêt à y mettre de lui pour en soutenir la conséquence. Ou encore parler, ce qui n'est peut-être pas si éloigné, pour donner éclat de corps à cet autre imaginaire sur lequel Lacan équivoque parfois. Mais alors, ces rencontres plus ou moins épisodiques, plus ou moins régulières, espacées parfois, intermittentes, suffisent-elles à ce qu'on parle de psychanalyse au sens fort évoqué plus haut ? Vous allez me dire, bien évidemment non. Mais il y a dans Cilicet, à ce sujet, un court texte que j'ai beaucoup apprécié. D'abord parce qu'il expose les contradictions de la psychanalyse avec les enfants d'une manière fort spirituelle. Ça s'est coupé. Donc j'ai beaucoup apprécié ce texte parce que, d'une part, il expose les contradictions de la pratique de la psychanalyse avec les enfants d'une manière assez drôle, qui préfère multiplier le paradoxe que faire semblant de le résoudre. Et aussi parce que datant de 1972, vous voyez, c'est pas exactement d'hier, il s'inscrit dans les suites des innovations institutionnelles et terminologiques. C'était trop long. Mais il a été question tout à l'heure, avec une fraîcheur qu'il n'est pas inutile de retrouver. L'auteur s'appelle Jacqueline Poulain-Colombier et elle aborde la question à l'envers, c'est-à-dire par la fin. Elle débute en effet ainsi. Demander à devenir psychanalyste n'est pas une demande formulable par un enfant. Une position de l'enfant par la portée de langage, de nouveau en tout cas. puisqu'on suppose qu'il ne peut pas formuler cette demande. À partir de cette proposition qui est énoncée quelque part entre constat et entre hypothèses, son argument est le suivant. C'est à partir du fait que la cure de l'enfant s'interrompra presque à coup sûr avant ce qui pourrait en être, s'il était un adulte, un terme, que la tâche des psychanalystes d'enfants non seulement peut, mais doit être distinguée de celle du psychanalyste d'adulte. Celui-ci, en effet, le psychanalyste d'adulte, cherche surtout à rendre terminable une cure que son propre mouvement tend à éterniser. Tandis que l'autre, le psychanalyste d'enfant, cherche au contraire le moyen qu'elle se termine autrement que sur un effet, disons, pour le dire vite, thérapeutique. Charge à lui, le second, de se tenir toujours prêt à une interruption qui sera anticipée et, en quelque sorte, d'anticiper sur cette anticipation. Mais comment fait-il ? Sûrement pas en se hâtant, puisqu'il est pressé, de livrer des éléments de conclusion peut-être pertinents, mais qui viendraient avant l'heure. Et je pense que c'est ici que l'espèce de vite de l'article à propos de la passe prend son sens. L'auteur, manifestement, tolère assez bien une certaine insécurité de la psychanalyse avec les enfants, et rien, à mon avis, ne permet de la soupçonner de compter pour rien cette enfance qui, pourtant, rend le processus d'avance inachevé. C'est-à-dire de vouloir l'effacer elle-même. Elle se répond ainsi à sa propre question, celle du début. Demander à devenir psychanalyste n'est pas une demande formulée par un enfant. Elle se répond ainsi que penser à la passe quand on reçoit un enfant, ce serait une possibilité, mais une anticipation fautive de l'adulte et de l'enfant, une transgression mettant à mal, comme elle le dit, la différence entre l'enfant et l'adulte où le désir incestueux a trouvé sa limite, et en même temps l'écart qui sépare l'inconscient de l'analysable, ce qui est évidemment plus intéressant. On doit donc se contenter, à la suivre, de mettre en évidence, autant que faire se peut, les coordonnées structurales de cette division du jeune patient entre enfant d'une part et analysant de l'autre. D'où l'importance, par exemple, de ce que l'analyste peut faire pour mettre en réserve la fonction proprement analytique de l'objet regard, entre autres, en contrant la puissance divinatoire prêtée à l'adulte par l'enfant. Mais il reste que la passe, en toute rigueur, n'est pas demandable. D'ailleurs, ni par un enfant, ni par un adulte. Parce que demander la passe... ça serait en faire une déclinaison de l'art du sujet, qu'il soit enfant, qu'il soit adulte, pour faire porter son message par quelqu'un d'autre, ou par autre chose, ainsi que le faisait valoir Martine dans un article récent, qui s'appelle « En analysant à part entière ». L'enfant, en analysant à part entière. L'entrée dans le dispositif de la passe, vous le savez, elle se décide plus qu'elle ne se demande. Et elle projette dans un nouvel espace semi-public la décision qui est faite d'un sujet à analysant, c'est-à-dire un sujet pas sans transfert, mais qui se dispose à s'en séparer. C'est une décision que l'enfant peut aussi bien esquisser pendant ses séances. Certes, beaucoup de choses, dont la thérapeutique bien sûr, peuvent alors se mettre à conspirer contre cette décision. Mais il ne tient qu'à son analyste de rester en dehors de la conspiration. Enfin, l'insécurité du psychanalyste devant l'enfant est en tout cas un fait bien documenté. les venues de l'enfant s'interrompent, quitte à reprendre plus tard, souvent sans prévenir et parfois sans un mot. Devant cette insécurité, Françoise Dolto réclamait, vous le savez peut-être, une reprise d'analyse à zéro pour les analystes en titre amenés à rencontrer des enfants. Lacan, interrogé à ce sujet lors d'une visite à l'école belge de psychanalyse en octobre 72, Lacan tente de ne pas répondre assez longtemps, mais il finit par dire ceci. C'est tout Dolto, ça. Ce qui quand même est remarquable, c'est que ce soit la seule qui ne se soit jamais départie, étant donné ce qu'elle ose énoncer, d'une fidélité à un discours, le mien, qui lui est littéralement inaudible. Évidemment, on pourrait commenter ce qui est inaudible de Lacan pour Dolto, d'après Lacan. Ce qu'il veut dire, à mon avis, c'est la chose suivante. La psychanalyse avec les enfants, parce qu'il veut dire Lacan, hein, c'est la chose suivante. La psychanalyse avec les enfants est possible pour tous les analystes, mais à condition de tenir mieux compte de la refondation qu'il a proposée 5 ans auparavant de, justement, l'analyse didactique. Alors nous voilà revenus au point de départ, aux alentours de la passe et à ceux de l'analyse. Car sans doute, la conduite de la cure d'un enfant mobilise plus explicitement qu'à l'accoutumée la question de l'être dépotoir de l'analyste, dont celui-ci ne peut jouer qu'à certaines conditions qui sont peut-être homogènes à celles qui peuvent conduire à la passe.